c'est Danger, qui est parmi nous. Bonsoir. Enfin, est-ce que ça marche ? Ça marche.
Ça
bonsoir.
Marche. Génial.
Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir à toi. Merci de nous.
Merci à vous.
De nous rejoindre
merci
sur les studios.
Oui. Donc Danger, donc qui est. Non, mais c'est pas facile quand on croit que c'est un artiste et en fait c'est un autre.
Bah oui,
c'est la surprise. Donc Danger qui vient défendre. Alors ce soir, vous passez à 23h30. C'est
exactement.
Ça ouais. Avec un. Je sais pas, je suis paumée. C'est un live ou un DJ set ?
C'est un live.
Live ?
C'est un live, ouais.
Live ? Pour un ensemble, tous les EP que tu as fait jusqu'à maintenant.
Et puis un album aussi.
Et un album.
En fait, bah, c'est un peu le lien entre les deux, justement. C'est-à-dire que je fais un peu un bilan de ce que j'ai fait avec la French Touch et toutes les années précédentes. Et puis j'esquisse un peu les choses que je vais sortir prochainement, quoi.
Voilà. D'accord.
Ça fait si tu peux nous très ouais. rapidement nous refaire éventuellement nous retracer ouais. un petit peu ton parcours parce que tu nous parles justement de la French Touch, t'as dû côtoyer ouais. un petit peu de monde, signer ouais. sur peut-être plusieurs labels, des choses comme ça.
Non, pas forcément. Non, j'ai on va dire j'ai profité de la parenthèse enchantée de MySpace. On va dire là j'ai commencé moi en 2007 et tout très rapidement ça vu que justement j'utilise ce mot que j'aime pas trop mais voilà que la French Touch la 2.0 comme on l'a dit a fait une déferlante internationale donc j'ai très vite tourné, j'ai sorti 3 EP. Et là, je bosse sur mon album et puis les prochains trucs. Et après, faut savoir que je fais pas mal de travail avec l'image et le son. Donc en fait, je collabore avec des artistes visuels aussi. Donc j'ai bossé pour des pièces au Palais de Tokyo avec un artiste qui s'appelle Raphaël Siboni qui a collaboré au live que je vais présenter ce soir. Qui,
d'accord. Voilà.
Et donc voilà, le dernier truc, le dernier travail, le projet sur lequel j'ai bossé, c'est ce nouveau live. Alors qu'avant, j'avais un autre live. Là, c'est ce nouveau live donc que je vais faire ce soir ici à Nantes. Pour la première fois.
Voilà. Ah ouais, donc on a une grosse exclue encore ce soir à Scopitone voilà. avec donc un live en toute première mondiale alors mais.
non pas mondiale. J'ai déjà fait en fait ailleurs.
Ah d'accord, donc première française.
Même pas français en fait. Non, c'est on va dire nantaise.
D'accord, première nantaise. Mais c'est une belle exclue quand même.
Je suis obligé. Ouais, il faut bien trouver des trucs.
Ah non mais c'est sûr.
D'accord. Alors on rappelle que vous êtes aussi graphiste.
Oui.
Et que vous êtes fortement inspiré aussi par les jeux vidéo. Ça fait un peu geek, vous passez combien de temps par jour sur ordinateur ?
Je passe toute la journée sur ordinateur, mais comme tout le monde, je pense. Le geek, beaucoup de gens utilisent l'ordinateur. De toute façon, dans nos travaux, la plupart des gens utilisent l'ordinateur. Donc, ouais, je suis un geek, mais je suis pas le genre de geek avec des t-shirts Pac-Man ou One-Up. Ça, j'aime pas.
Un geek inspiré aussi par le visuel, d'après ce que tu comprends.
Ouais, ouais, ouais voilà. Puis
dans l'écriture de ta musique, par exemple. Ouais, ah, je sais pas si du vouvoiement ou tutoiement, désolé.
Ouais, mais je préfère que tu me tutoies à la limite.
Tutoie, d'accord, ouais. Tutoyons-nous.
Je par exemple,
oui,
si
on parle de l'écriture de ta musique ouais. qui est assez visuelle, qui est très filmique.
Ouais, voilà, je pense comme beaucoup de gens, mais voilà, je suis vachement influencé par le cinéma, moi je pense que ce que je dis c'est que les premières musiques électroniques que j'ai écoutées, je pense que ça venait plus des jeux vidéo et des bandes originales de films au final que réellement de la musique elle-même. Après je suis venu aux sources plus tard, donc c'est pour ça que j'aborde tout le temps la musique avec un angle vachement visuel justement, voilà. Et ça m'aide à créer des trucs assez narratifs, voilà.
D'ailleurs, je tiens à préciser, c'est pour ça aussi que je me suis un petit peu trompée, c'est que sur scène, tu as une cagoule, donc je ne savais pas à quoi tu ressemblais.
Et oui,
c'est ça la surprise en fait. Donc cette petite cagoule, tu peux nous en parler quand même.
Déjà, c'est pas une cagoule, c'est un masque vraiment.
Un masque, pardon.
Après, j'ai juste un. Ça va, c'est tout à fait. Enfin, je pense cohérent avec. La personne que je voulais mettre en place, c'est-à-dire que je suis pas le genre j'ai besoin de créer des univers un peu graphiques et tout. Je voulais pas me mettre en avant en tant que ma personne sur scène. Je cherche pas à me cacher. J'ai juste envie que les gens ils soient en face d'un symbole que je puisse contrôler, on va dire un petit peu. En gros, ce que je veux communiquer, ce que je veux mettre comme ambiance, et tout. Et c'est assez difficile de le faire quand on a la tête de n'importe quel Français normal qui est graphiste en plus. Donc c'est pas très original. Donc voilà.
C'est inspiré vraiment du monde des jeux vidéo.
Je pense que c'est inspiré surtout de là où dans lequel je suis né, c'est-à-dire les mondes des avatars, même Internet, genre Facebook, tout le monde. Là, on est tous en train de choisir ce qu'on veut montrer de soi-même maintenant, en fait, en gros. Donc c'est exactement ce que je fais sur le live, quoi. En fait, je présente une facette de moi que voilà. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Je crois que je vois ce que tu veux dire. J'insiste sur ce côté jeu vidéo. Je sais pas si c'est quelqu'un qui m'en a parlé, mais pour le troisième EP qui s'appelait 9-17-2007.
Ouais, c'est des dates. Ouais.
C'est des dates. Ah, d'accord. Enfin, non, pourquoi j'ai marqué 17 alors ? Ah, c'est à l'américaine.
Ouais, ouais.
D'accord, donc 17 septembre 2007. Tu avais fait un teaser qui s'appelait 16 bits. Donc aussi un hommage.
C'était on va dire que j'utilisais les techniques de jeux vidéo de l'époque et tout pour faire un teaser. Mais c'est ce qu'on peut appeler mon côté geek et tout. Après je pense que le jeu vidéo c'est vraiment devenu quelque chose d'assez énorme et tout, et que c'est pas forcément de l'ordre de l'anecdotique et que il y a plein de choses à faire avec. Donc voilà. Après, moi, je suis pas du tout. J'aime pas les citations Pac-Man et Mario Bros. Le geek cliché, quoi. Voilà.
Juste pour revenir sur ce troisième EP qui s'appelait donc 17 novembre 2007. À quoi correspond cette date fatidique?
C'est la sortie de l'EP. En fait, le troisième, c'est pas la sortie justement. Je me suis amusé avec les dates un peu. C'est un peu un hommage à tous les trucs de science-fiction, 80s un peu, où il y a des épisodes. Donc où en gros là, je fais toutes mes releases, je les place dans un espèce de contexte temporel, même s'il est passé, mais proche. Je trouvais que c'était rigolo, voilà.
Pour parler musique quand même un petit peu, musique remix. T'as fait un remix d'Estelle, American Boy, quand même.
Oui, c'était cool. En plus, j'étais pas du tout connu. Les managers sont venus directement nous voir, ils voulaient quelque chose de neuf. Puis, les Américains n'ont pas de problème à faire ça tout le temps. C'est toujours les premiers à avoir des remixes de trucs craqués et bizarres. Donc, c'était cool. Donc, ouais, ça m'a permis vachement
de se
faire connaître. Voilà, le truc assez commercial et tout. Puis, ça a vachement, le morceau lui-même original a vachement explosé. Donc, c'était bien. Voilà. Une bonne entrée à la matière.
Voulais rajouter?
Non, en fait, je voulais juste par rapport au. On parlait au maxi qui comporte des dates. Je voulais savoir si ces dates avaient une signification particulière pour toi. Est-ce que c'était des dates qui t'ont marqué dans ta carrière, dans ta vie, tout simplement? Après, si c'est pas trop personnel.
En fait, c'est hyper simple. C'est hyper simple parce qu'en fait, la première date, c'était la date de release de mon premier EP. Hippie.
Okay.
Et en fait, au lieu de continuer sur ce système-là, en fait, j'ai imaginé que toutes les autres releases, en fait, je les avais sorties de manière virtuelle la même année 2007, comme ça, en me disant, qu'est-ce que ça fait d'imaginer que tu as 3 ans après, en fait, tu parles d'un truc qui, c'était juste un peu bizarre dans ma tête, mais ça me faisait marrer, quoi.
D'accord, voilà. Ok.
Juste pour revenir un petit peu aussi sur quelque chose que tu as fait en 2010, tu as organisé un concours accessible à tous qui s'appelait le Boss Lake Tournament. Oui. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'était ?
C'était en fait très simple. Il s'agissait juste par rapport à ma sortie d'un maxi, donc d'utiliser mes morceaux comme une espèce de bande originale en fait du film que les gens voulaient. Donc les gens ils prenaient un extrait, vu que mes musiques il y a toutes des intros, il y a pas mal de passages assez narratifs, donc ils ont pris n'importe quoi, des trucs de manga, des trucs de films, et le gagnant c'est lui qui faisait le truc qui nous plaisait le plus, quoi. Mais ce qui était intéressant c'est que ça a généré énormément de vidéos YouTube avec ma musique qui vit comme un peu comme une soundtrack, comme un truc de, je sais plus comment on dit, musique de film. Donc c'est vraiment un truc qui, c'est une approche qui m'intéresse et ça a pas mal marché, donc c'était
Combien de participants ?
Oui, je m'en souviens plus, je sais pas, peut-être 300, un peu plus, un truc comme ça. Mais c'est toujours cool, ouais. On n'a pas fait beaucoup de promotion, c'était vraiment un truc très, très local, on a juste blogué un tout petit peu sur ça. Donc, c'était sympa de voir toute cette génération-là. Voilà.
Une petite question comme ça, à l'improviste, on a beaucoup parlé de musique comme ça, musique génération, donc French Touch 2.0 et puis musique un petit peu plus récente. Je suppose que avec Internet, tu parlais aussi toi-même de MySpace, etc. Au début, tu as profité un petit peu de la vague. La musique, autant la recherche de la musique et puis l'accessibilité à la musique a vachement évolué ces dernières années.
C'est sûr, ouais.
T'en penses quoi ? Est-ce que tu trouves pas que ça va un peu trop vite aujourd'hui, qu'on est arrivé aussi un peu dans l'ère de la musique jetable avec tout ce qu'on peut récupérer vite fait sur Internet ? On écoute une fois, on la joue, après on n'en entend plus parler ou on se rappelle même pas qu'on l'a dans notre discothèque. Je sais pas, est-ce que toi, peut-être une recette pour justement essayer de sortir un petit peu de ce schéma web musique ?
Je pense que c'est pas forcément lié qu'au web. Je pense que dans la musique électronique, surtout avec l'apparition de la techno-musique et tous ces genres de musique à mixer, il y a ce qu'on appelle le DJ Tool qui a toujours existé, qui était produit en masse, et les mecs ils faisaient des musiques qui étaient jouées pendant 3 semaines dans les clubs, et après il y en avait d'autres, bon peut-être t'es moins frénétiquement que maintenant, parce que maintenant c'est vrai qu'on a un accès assez important, mais je pense que ça a toujours existé avec la musique de club justement assez consommable, où il faut juste trouver le gimmick qui tue, et c'est trop cool pendant 2 mois, et après tout le monde est saoulé et ne veut surtout pas l'entendre. Donc là, non, je pense qu'en fait, forcément, dans tous les cas, les gens, oui, sont, on va dire, lassés plus rapidement de la musique, parce que maintenant, en plus, il y a énormément de gens qui s'engouffrent dans les mêmes choses au même moment, ce qui fait que ça fait saturer tous les genres émergents, en fait, au bout de 3 mois, tout le monde l'a sur-cliché à monter le truc. Donc, non, mais. Je pense que simplement le temps fait son travail, et ceux qui avaient vraiment au sein même d'un style avaient vraiment un univers et avaient vraiment quelque chose d'intrinsèque artistiquement, il reste forcément voilà. Je sais pas si j'ai répondu correctement à la question.
Mais si carrément, mais c'est vrai que c'est j'ai toujours trouvé ça assez paradoxal, le fait que donc l'accessibilité à tous ces outils pour faire de la musique, ça facilite donc la création musicale auprès d'un plus grand nombre, mais pour les artistes qui eux arrivent à persévérer, à durer, c'est encore plus difficile aujourd'hui qu'avant de rester sur le devant de la scène, étant donné que ça se multiplie de partout.
Mais c'est une question super intéressante en même temps. Enfin, genre c'est à la fois horrible et super intéressant maintenant, parce que voilà, c'est vrai comme tu dis que, enfin, toutes les secondes il y a 38 groupes qui sortent, dont 30 sont géniaux, sauf que en fait ça se trouve il y en a un sur les 30 qui sait justement faire communiquer un petit peu, qui va réussir à se faire voir en fait au milieu de tout ça, et je pense que c'est ce qui fait que c'est difficile maintenant, c'est qu'on peut pas simplement faire de la bonne musique pure et simple, il faut absolument manier aussi la communication et toutes ces choses là sinon c'est super super difficile de sortir, quoi. C'est là que c'est un peu injuste, c'est vrai. Bon, après, est-ce que c'est moins juste d'être le petit-fils de nana comme il y avait 40 ans, enfin, je sais pas, quoi.
Ouais, voilà. Je pense que c'est, en effet, c'est beaucoup moins facile que d'être le fils de ou le petit-fils de.
Mais bon, ça marche toujours maintenant, ça, c'est cool.
Oui, ça marche aussi quand même, oui, c'est sûr.
Donc voilà.
Juste un petit mot peut-être, parce que je sais pas, tu as bien vu l'affiche du festival. Est-ce qu'il y a des gens, enfin des potes ou des artistes en particulier que t'aimes bien?
Bah moi je connais très bien Paul Mankoff, on a pas mal, on parle souvent ensemble, donc c'est cool. Après moi je viens de Lyon, je connais bien Agoria aussi, et forcément aussi pas mal de gens ici, mais c'est vrai que la personne avec laquelle je veux être le plus proche, je pense que c'est Mankoff ce soir. Et voilà, donc ça fait plaisir, quoi. Je sais pas si je pourrais le voir ce soir. Mais
parce qu'il passe.
Il passe dans l'autre salle, Stéréolux, minuit 10.
Donc non, ça va se chevaucher, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est cool parce qu'on a fait nos nouveaux lives, justement, nos deux nouveaux lives qu'on fait ce soir. On les a présentés à la Gaîté Lyrique à Paris, donc c'est un nouveau lieu qui a été ouvert là, cette année. Et donc on les a fait en avril, si je me rappelle bien, tous les deux ensemble. Donc c'était sympa, c'est sympa de se revoir ici, quoi. Voilà.
Merci beaucoup en tout cas, Danger, d'être venu dans sur notre petit studio.
Ouais, merci bien.
Merci beaucoup.
Et puis on va te souhaiter une bonne soirée, en espérant que tu profites autant que les spectateurs vont profiter de ton show, je pense. J'espère que tu vas profiter aussi de ton côté, du lieu, de l'ambiance, de tout ça.
C'est super.
Et puis on va te souhaiter une bonne continuation. Et un grand merci à toi d'être venu sur le plateau pour le direct de Prune, en direct de Scopitone.
C'est ça, voilà. Merci. On rappelle juste que tu passes à la Friche ce soir à 23h30.
Ah oui, 23h30. Oui.
23h30, un peu décalé. Ouais. Et peut-être que ce serait une bonne occasion aussi de s'écouter un petit Danger, histoire de faire une belle transition.
Et je crois que c'est le morceau, alors si je déchiffre bien les paroles de mon réalisateur,
comme
ça, c'est le morceau 4h30.
C'est parti.
On écoute ça tout de suite.